bienvenue dans cette émission. Tensions entre la RDC et le Rwanda. Le président rwandais et congolais sont parvenus à un accord pour se rencontrer en face à face à Luanda en Angola à une date qui sera annoncée. Le président angolais qui annonce cette nouvelle affirme avoir échangé avec les deux dirigeants. Par ailleurs, la RDC a accepté de libérer les deux soldats rwandais arrêtés il y a quelques jours au village Biumba, en territoire des Rutshuru, au nord Kivu, ont indiqué les services de la présidence angolaise dans une dépêche de l'agence France de Presse, en précisant que c'était à l'issue de l'entretien hier mardi 31 mai entre le président João Lourenço et son homologue congolais Félix Tshisekedi. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné toujours hier mardi la situation qui prévaut dans l'est de la RDC en général et en particulier la récente résurgence du M23 dont les actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au nord Kivu constituent une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, a précisé la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique. Martha Kobi a, à la même occasion, demandé que le Conseil de sécurité accorde tout son poids aux efforts régionaux en cours pour désamorcer la situation et mettre fin une fois pour toutes à l'insurrection du M23. Quelle lecture faire des récentes évolutions dans la crise entre la RDC et le Rwanda? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Onesphore Sematumba, il est analyste pour la région des Grands Lacs au sein de International Crisis Group, organisation internationale qui étudie les conflits au niveau mondial. Bonsoir, monsieur Onesphore Sematumba.
Bonsoir.
Professeur Dadis Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Bonsoir, professeur Dadis Saleh.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Et professeur Casimir Ngoumbi, il est politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir, professeur Casimir Ngoumbi.
Bonsoir, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à la radio Capi et à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Sud Kivu, les forces vives de la société civile et autres structures de la population réitèrent leur soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et l'ont signifié au cours d'une marche pacifique organisée ce mercredi dans les rues de Bukavu. Objectif, dire non à la guerre d'agression de la RDC. Emmanuel Edamaji Wakabedi pour les détails.
C'est une foule compacte qui a manifesté depuis la place Munziroa à Nyawera jusqu'au gouvernorat de province en commune d'Ibanda. Organisations de la société civile, étudiants, motards, enseignants ainsi que les femmes étaient de la partie. L'essentiel du message consiste à dire non à l'agression du pays et manifester le soutien total au FRDC. Devant le cabinet du gouverneur de province, Jean Chrysostome Makidiana, un des initiateurs de la marche, a lu le mémorandum adressé au président de la République. La population du Sud Kivu demande au chef de l'État d'octroyer des moyens conséquents à l'armée et d'autres services de renseignement pour assurer l'intégrité et la souveraineté nationale, mais aussi d'honorer tous les militaires blessés et ceux qui tombent sur le champ de bataille. Autre demande au chef de l'État, c'est celle de procéder à des réformes profondes au sein de l'armée pour s'assurer des militaires réellement engagés pour la patrie. Aucun incident majeur n'est enregistré alors que toutes les autres activités économiques se déroulaient normalement à Bukavu. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Merci à vous Emmanuel Elamejou Akabedi. Malgré les efforts déployés par le gouvernement congolais pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC, la violence des groupes armés a continué de faire payer un lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires des provinces. C'est ce qu'a dit la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Kobi, devant les membres du Conseil hier mardi à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné hier la situation qui prévaut dans l'est de la RDC en général et en particulier la récente résurgence du M23 dont les actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au Nord Kivu constituent une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, a précisé Martha Pobi. Elle a demandé que le Conseil de sécurité accorde tout son poids aux efforts régionaux en cours pour désamorcer la situation et mettre fin une fois pour toutes à l'insurrection du M23. On l'écoute ici au micro de Jérôme Barnard de la Radio des Nations Unies à New York.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'insécurité dans l'est du pays, la violence des groupes armés a continué de faire payer en lourd tribut à la population civile dans plusieurs territoires de province. La récente résurgence du mouvement du 23 mars, connu comme M23 en particulier, et ses actions hostiles contre les forces armées congolaises et les casques bleus de la MONUSCO au Nord Kivu aggravent une situation déjà sérieuse. Elle continue une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
Prenant la parole pour sa part, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Wang Xia, a salué l'engagement de toute la région, voire du continent africain, exprimé par le président Macky Sall du Sénégal, à soutenir la RDC et ses voisins dans leurs efforts pour se concerter et tenter de trouver ensemble des solutions à ces problèmes de longue date. On est fort au Sema Tumba, je rappelle que vous êtes analyste pour la région des Grands Lacs au sein de International Crisis Group, organisation internationale qui étudie les conflits au niveau mondial. On a l'impression que les choses sont allées très rapidement. Le président de la RDC et celui du Rwanda ont accepté de se rencontrer. Entre-temps, l'ambassadeur Vincent Karega a été convoqué par le gouvernement congolais qui lui a remis une lettre adressée à son gouvernement. Et quelle lecture vous faites des récents développements dans la crise entre la RDC et le Rwanda, M. Onesvoro Sema Tumba?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut se féliciter de cette sorte de désescalade qui s'est amorcée de façon rapide, comme vous le dites, je dirais même de façon surprenante, parce que les tensions sont allées crescendo depuis les premières attaques du MV3, et puis les accusations réciproques, dont des accusations sont toutes gravissimes, parce que d'un côté, le gouvernement congolais accuser le Rwanda non seulement de soutenir la rébellion du M23, mais d'avoir envoyé ses propres troupes, son armée régulière sur le sol congolais, ce qui est une accusation gravissime. Et puis, donc, le gouvernement rwandais qui a accusé l'armée congolaise de combattre côte à côte avec les FDLR, qui sont l'ennemi public numéro un du Rwanda. Donc nous étions dans une logique où finalement on sentait presque la poudre. Et donc voir que, bon, peut-être à cause de cette pression internationale, parce que vous avez parlé de cette session aux Nations Unies, mais presque en fait tout le monde était unanime qu'il fallait vraiment trouver un terrain, peut-être pas d'entente pour le moment, mais un terrain de négociation, de dialogue entre les deux chefs d'État. Et donc, il faut s'estimer heureux que le président Tshisekedi, malgré cette situation, pas très facile, parce qu'on a senti ce qui se passe même aujourd'hui à Bukavu, nous avons vu les manifestations à Kinshasa, donc il y avait une pression énorme sur lui, sur ses épaules, pour qu'il en découdre de façon militaire, mais non, il a pris cette main tendue pour un dialogue. Et bon, le président Kagame se trouve, je pense, dans les mêmes dispositions. Et donc, je pense que c'est une évolution surprenante, mais c'est une évolution qui suscite l'espoir qu'on ne va pas franchir le pas fatidique.
Voilà, vous saluez cette évolution positive. On a annoncé que les deux présidents ont accepté de se rencontrer. Cependant, leurs positions sur la question du M23 sont diamétralement opposées. Le gouvernement congolais, comme vous l'avez rappelé ici, accuse le Rwanda de soutenir les M23 en brandissant comme preuve les deux militaires de l'armée rwandaise qu'il détient. Accusation que le Rwanda rejette en accusant à son tour le FRDC de faire la jonction de force avec les FDLR pour déstabiliser le Rwanda. Les positions des deux pays peuvent-elles évoluer à l'issue de cette rencontre, M. Sematumba? Ou plutôt, dans les contextes du moment, il est difficile d'envisager une telle éventualité?
Non, non, je pense que c'est justement parce que les positions sont diamétralement opposées qu'il y a nécessité de se mettre autour d'une table pour en parler. Et donc, on ne peut pas être pessimiste jusqu'à dire que, bon, leurs positions ne se rencontreront jamais. Peut-être le professeur Dadi Salé, que je salue, qui est un spécialiste dans ce domaine, pourra me compléter. Mais je pense que, comme justement leurs positions sont opposées, eh bien, il faut trouver un mécanisme non violent, donc une solution non militaire, pour en parler. Maintenant, nous pouvons dire, malheureusement, que dans cette région, ce n'est pas la première fois que des chefs d'État s'accordent ou s'asseyent ou dialoguent. Mais nous sommes toujours retombés dans la violence. Donc, nous sommes dans une sorte de cercle vicieux, nous tournons à rond. Et c'est pourquoi je pense que c'est à cause du manque de sincérité qui caractérise tous les efforts diplomatiques dans la région. Et je pense que tous les leaders devraient non pas jouer au théâtre du dialogue, mais dialoguer franchement, parce que les populations de cette région ne peuvent pas continuer à vivre dans ce cycle interminable de violence.
On sait que dans cette situation, il y a deux pays qui s'opposent, le Rwanda et la RDC. Vous parlez de ces manques de sincérité. Et à votre avis, les manques de sincérité seraient le fait de quel pays, entre les deux?
Bon, écoutez, prenons par exemple, je ne veux pas être ni juge ni procureur, mais prenons les accords qui ont été signés, dont l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, le développement, etc. Si tous les signataires de cet accord avaient respecté scrupuleusement leurs engagements et leurs paroles, mais on n'en serait pas là. Cet accord contient tout ce qu'il faut faire pour que plus jamais on ne parle ni de guerre, ni de groupes armés. Mais bon, pourquoi y a-t-il toujours des groupes armés et pourquoi y a-t-il toujours des guerres? Je pense que ceux qui sont les parrains de ces accords-là devraient être en mesure d'évaluer pour donner des mauvais points, sanctionner le cas échéant, comme nous disions à l'école, tirer les oreilles aux mauvais élèves de la région. Donc, mais là, je ne peux pas dire, bon, voilà, pour les cas précis d'aujourd'hui, qui a tort, qui a raison. Donc, comme vous l'avez dit si bien dans votre introduction, il y a des allégations de part et d'autre. Eh bien, maintenant, voyons comment les chefs d'État, dans le cadre de cette tripartite, Lorenzo Kagame et Tshisekedi, vont nous accoucher d'un processus beaucoup, beaucoup plus sincère et beaucoup plus apaisé, parce que j'insiste beaucoup sur la sincérité, en fait. Si on fait une diplomatie dans un contexte mensonger de duperie, eh bien, les populations de cette sous-région vont continuer à souffrir.
Merci, Monsieur Onesfor Sematumba. On vous garde encore dans cette émission. Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique, comment vous analysez ces nouveaux développements, le fait que les deux présidents acceptent de se rencontrer? Est-ce, selon vous, une évolution ou c'est plutôt quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, permettre à ce qu'une solution rationnelle, une solution durable soit trouvée à cette crise?
Oui, oui, merci beaucoup. Je ne pense pas que c'est le fait de se rencontrer qui est une évolution. Je pense plutôt que c'est la matière qui pourra être traitée et la façon dont la matière pourra être traitée qui pourra être une évolution. Se rencontrer pour ne rien dire, comme notre co-débatteur, M. Ernesto, vient de le dire, peut-être un dialogue des sourds, une diplomatie où les gens ne se disent pas des vérités, il n'y a pas de sincérité. Bon, ça ne fera que nous faire tourner dans ce cercle vicieux, comme notre co-débatteur venait de le dire. Donc, se rencontrer, c'est une bonne chose. Il faut toujours se rencontrer. Je pense qu'il faut, quand on recherche la paix, il ne faut jamais bloquer des rencontres. Là, c'est sûr et certain. Mais pour se dire quoi? Donc, pour moi, c'est la matière qui sera la plus importante. Mais cela étant, comme je l'ai dit souvent, nous avons plutôt des faits. Parce que en diplomatie, la diplomatie que nous apprenons et que nous sommes en train aussi d'apprendre aux gens, ce n'est pas une diplomatie où on va sur la table en position totalement de faiblesse. C'est là où je félicite notre armée, nos FARDC, avec tout ce qu'on vient d'avoir comme repère, en appui bien sûr la MONUSCO. Je félicite le fait d'avoir bouté un peu dehors ou bien délogé la M23. C'est déjà un petit pas vers un peu une démonstration de force, et là peut-être qu'on pourra négocier. Mais cela étant, nous constatons effectivement que sur les trois plans que je cite souvent pour que nous puissions avoir la paix, on ne pourra jamais considérer l'aspect seulement local, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Pour avoir des solutions durables, il faut d'abord prendre le contexte international et les intérêts au niveau international. Par après, on prend les aspects au niveau régional, les intérêts de tout le monde et les contextes. Mais surtout pour les Congolais, le plus grand contexte, c'est l'aspect local. L'intérêt du peuple congolais, seul et uniquement l'intérêt du peuple congolais. Parce que les deux autres aspects peuvent intégrer les intérêts des pays voisins, du niveau international, etc. Alors, c'est là où se trouve le vrai problème, parce que, comme je le disais tantôt, nous semblons ignorer cette réalité. On fait un peu une petite politique d'Autriche. Ce qui fait que nous allons vers des négociations et des négociations, vers des accords et des accords qui ne s'appliquent pas. Moi, je ne m'étonne absolument pas, monsieur le journaliste et tout le peuple, je ne m'étonne absolument pas. Sans mettre ces trois aspects sur la table, donc le président Tshisekedi peut rencontrer le président Kagame n'importe où, mais s'il ne met pas les trois aspects sur la table, alors ça sera encore une fois du temps perdu. Donc, le peuple congolais qui a besoin de la paix, nous devons comprendre que ben nous avons des intérêts du néocolonialiste, on a des intérêts des multinationales, on a des, il y a beaucoup de rapports, même de la MONUSCO, je pense, qui en parlent, des gens qui font le bois, les coltans, etc. Tous ces intérêts-là sont des aspects qui doivent déterminer les négociations. Parce que si ces multinationales, si ces certains pays qui ont des intérêts un peu directs ne continuent pas à soutenir les rebelles, par exemple, ou bien, entre guillemets, je les appelle les autorités morales, donc des complices en République démocratique du Congo, eh bien, je vous assure, quelle que soit la négociation, rien ne va changer. Si nous ne considérons pas l'aspect du fait qu'on a les FDLR en République démocratique du Congo, on a les ADF en République démocratique du Congo, eh bien, bien sûr, on aura toujours des problèmes sur le plan local. Mais cela étant, dans un journal des Eastern African, les 6 mai de cette année, je proposais, je dis, il faut prendre langue directement, que la communauté internationale et le Congo exigent qu'il y ait une ouverture directe entre les FDLR et le Rwanda. Ce sont des Rwandais, clair noir sur blanc. En quoi est-ce que le Congo continue à endosser cette responsabilité? C'est un peu comme si c'est notre problème seul. Et pourtant, ils sont entrés sous l'égide de la communauté internationale. Et nous savons ce qui se passe. Donc, il faut des dialogues clairs, sincères, entre le Rwanda et le FDLR. Pas nécessairement le Rwanda d'abord et le Congo. Ça, c'est bien, mais les Rwandais et le FDLR, parce qu'ils doivent rentrer chez eux quand même un jour, pour que nous puissions avoir la paix. La même chose avec les ADF. Les ADF avec l'Ouganda, il faut, ce sont des Ougandais. Même chose avec des forces du côté du Burundi. Si cet aspect n'est pas ouvert, et celui qui a plus intérêt à ouvrir cet aspect, apparemment c'est nous les Congolais. Parce que nous sommes plus les victimes. On a déjà eu plus de 10 millions de morts par rapport à toutes ces atrocités. C'est les Congolais les plus perdants. Mais l'aspect local maintenant, c'est un aspect où il faut que le Congo applique, par exemple, l'article 63 de la Constitution. Il faut que le Congo puisse appliquer des textes, des lois, des normes pour renforcer notre capacité. Parce que tant que nous continuerons à négocier dans des positions de faiblesse où on a des députés qui n'ont pas compris qu'il y a une proposition de loi, sauf si je ne m'abuse, au Parlement, ça va, qui demande à ce que dès qu'on finit l'école secondaire, qu'on puisse faire l'armée. Ça va, ça c'est une dissuasion, ça permettrait l'application de l'article 63 en ordre, pas en désordre. Mais on n'a aucune dissuasion. Jusque-là, apparemment, nous sommes encore sous embargo. Alors, à quoi nous sert notre diplomatie?
Professeur Dadi Salé, vous avez suivi la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique qui a demandé, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité d'accorder tout son poids aux efforts régionaux en cours pour désamorcer la situation et mettre fin une fois pour toutes à l'insurrection du M23. Peut-on considérer cet appel comme étant l'expression, n'est-ce pas, d'une volonté, d'une certaine détermination de la part de la communauté internationale à mettre fin à l'activisme du M23?
Non, malheureusement, je suis direct. Je soutiens le fait que ce sont des belles paroles, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Et vraiment, celui qui va dire l'inverse, je ne sais pas c'est qui. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois. Absolument pas. Si la communauté internationale veut soutenir la République démocratique du Congo, vous allez constater qu'en Ukraine, c'est des armes et des milliards de dollars. Et c'est clair, la situation est claire, l'agresseur et l'agressé, c'est clair. Mais jusque-là, on nous parle de M23, mais apparemment, le M23 n'est pas notre vrai problème. N'est pas le vrai problème, c'est le Rwanda et le Congo et l'Ouganda. Ce n'est pas vraiment le M23. Le M23 devient un kind of a scapegoat. On se cache derrière quelque chose. Donc, la communauté internationale, tant qu'elle va rester avec des ambiguïtés dans ses paroles, au fond, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on va fournir des efforts pour qu'on ait la paix. Donc, la communauté internationale, plutôt que parler, donner des beaux discours, ça c'est vraiment beau hein, comme discours, mais doit être en application et soutenir le peuple congolais, par exemple, ben, dire au Rwanda de retirer ses propos un peu trop de véhilité. Les propos de véhilité en diplomatie, c'est quoi? Mais Monsieur Kagame, le président, son excellence, président du Rwanda, et pratiquement aussi de l'Ouganda, ils ont dit devant tout le monde qu'ils sont prêts à attaquer la République démocratique du Congo, même sans l'aval de la République démocratique du Congo. C'est une violation des droits internationaux. Mais apparemment, personne n'en parle. Et ça passe comme de fait anodin.
Voilà, on a compris. Mais s'il faut revenir sur les derniers développements dans cette crise entre le Rwanda et la RDC, la RDC accepte de libérer les deux soldats rwandais. Et une certaine opinion pense que la libération aurait plutôt été, n'est-ce pas, la concession que la RDC aurait faite à l'issue de la rencontre entre les deux chefs d'État, au lieu de la faire maintenant, alors que les positions sont encore figées, et les lignes n'étant pas encore bougées, il est encore trop tôt, n'est-ce pas, de prendre une telle décision. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
Oui, malheureusement, je suis de cet avis parce que vous le savez mieux que moi, et tous les spécialistes seront d'accord avec moi, des spécialistes vrais, qui disent la vérité. Mais pourquoi libérer les deux militaires sans contrepartie? Quelle est la contrepartie? Oui, la contrepartie, on veut qu'il y ait diminution des tensions. Tout le monde est d'accord. Mais on pouvait exiger, par exemple, au Rwanda de retirer ses paroles, ses mots, aussi graves que ça. Personne ne les a exigés. Donc on ne fait qu'exiger à la République démocratique du Congo. Je pense que la justice de la République démocratique du Congo, comme en Ukraine, comme les gens le disent, devait juger ces deux militaires devant la loi, par rapport à la loi congolaise et à la loi internationale. Mais qu'à cela ne tienne, pour désamorcer des tensions, je serais personnellement d'accord qu'il y a des libérations qui se font dans ce sens-là. Mais quelle est la contrepartie?
Merci.
Qu'est-ce que nous nous pouvons exiger effectivement au Rwanda? Moi, je ne sais pas, peut-être on doit nous les communiquer. On libère juste des gens comme ça, ils doivent être jugés par la justice congolaise. Le libérer sans contrepartie, c'est une sorte d'aveu de faiblesse et une diplomatie de faible.
Merci.
Le Congo ne sera jamais respecté avec une diplomatie de faible.
Merci professeur Casimir Ngoumbi, politologue expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Votre lecture par rapport aux dernières évolutions.
Merci monsieur Malimba. Je voudrais d'abord jeter au FRDC pour le sacrifice consenti. Tout de suite je vous dis que je ne serai pas opposé aux affirmations faites par le professeur Dadi Salé. Je voudrais vous dire aussi, monsieur le journaliste, que l'affaire Rwanda RDC, où la négociation Rwanda RDC, c'est une négociation qui volère et qui volait. Pourquoi? Parce que la survie du Rwanda dépend de la déstabilisation de la RDC. Pourquoi? Je voudrais que vous me laissiez présenter quelques éléments des références pédonnées et probantes pour justifier que la déstabilisation permanente de la RDC a une motivation principalement. Un concept qui n'est pas toujours utilisé par les experts, hein, voilà, qui sont des non-africains. Donc, je veux dire, quand ils se disent l'expert, ils n'utilisent pas cette conception. Très regardant par rapport aux déclarations et aux lectures scientifiques qu'ils font par rapport à la situation de la RDC. D'où vient la déstabilisation permanente? D'abord, la République du Congo, RDC, pays potentiellement le plus riche du monde, a toujours attiré des vautours, et cela depuis Léopold II. Plusieurs groupes et acteurs au sein des secteurs miniers en provenance des grandes capitales de la planète se servent d'imprimer sous le regard des grands de ce monde. Kagame, s'il ne faut pas ajouter Museveni, reste le leader exemplaire de la nouvelle génération, ainsi que le qualifier ou le baptiser l'administration Clinton déjà à l'époque. Quel que soit leur forfait, le capital du monde ne condamne pas les actes commis par le Rwanda. Il bénéficie encore d'un permis de tuer et de piller. Bref, monsieur le journaliste, la présence du Rwanda n'est pas pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle.
Professeur Casimir Goumi.
Politique et même militaire.
Professeur, voilà, vous avez dit ici, quand vous avez commencé à analyser la question, vous avez dit que la survie, n'est-ce pas, du Rwanda dépend de la déstabilisation de la RDC. Et vous ne pensez pas que c'est cette perception qui ne nous aide pas à évoluer, à avancer dans cette sous-région? On sait que le Rwanda a toujours existé. Le Rwanda n'est pas né de l'accession au pouvoir du régime de Paul Kagame. Le Rwanda a toujours été là. Et s'il faut se rappeler l'époque du maréchal Mobutu, le Rwanda ne déstabilisait pas la RDC, mais le Rwanda a toujours vécu. Et vous pensez qu'il est vraiment impossible pour le président Kagame ou une certaine opinion de pouvoir évoluer dans cette façon de percevoir les choses, cette perception selon laquelle la survie du Rwanda dépend de la déstabilisation de la RDC? Est-il vraiment impossible d'évoluer par rapport à cette perception?
L'évolution ne peut être possible que si et seulement si la RDC utilise une force qui permet de s'imposer par rapport à toutes les tentatives de déstabilisation. Et donc, la force, elle n'est pas totalement diplomatique, mais elle est d'abord militaire, qui doit être envisagée. C'est à ce niveau que je dis, parce qu'il y a beaucoup, il y a même des zones d'élite composées par les multinationales et même des dirigeants, certains dirigeants congolais, qui pratiquement complotent pour exploiter les richesses de la RDC. Et même financier, quand vous parlez par exemple du bureau Congo de la paix, je ne sais pas si vous en avez une attitude, c'est pratiquement une structure qui pille de manière permanente les richesses de la RDC et qui pratiquement finance même la paix au Rwanda, et pas seulement la paix. Mais...
Professeur Casimir Ngoumbi. Voilà, apparemment, on a un problème avec le professeur Casimir Ngoumbi. On est fort, c'est Matumba. Il a été annoncé que les deux chefs d'État, donc le président Félix Tshisekedi et le président Kagame, ont accepté de se rencontrer en face à face. D'un côté, il peut y avoir la volonté d'aller vers la désescalade de la part de ces deux chefs d'État qui finalement acceptent de se rencontrer. Mais de l'autre, il y a aussi des opinions publiques qu'il faut savoir gérer. Et comment, à votre avis, ces deux chefs devraient-ils gérer cette question tout en n'est pas préjudicier les intérêts de leurs différentes populations?
Bien, merci. C'est l'opinion publique est très importante, bien sûr. Chaque chef d'État va certainement tout faire pour ne pas aller à l'encontre de son opinion publique. Mais attention, un chef d'État ne peut pas non plus être, je dirais, à la merci d'une opinion publique qui est, par définition, surtout pendant les moments de grandes émotions, comme pendant les temps de guerre, n'a pas de vision de long terme. Hein? Donc, face à une situation de frustration, eh bien, l'opinion publique, évidemment, va rêver de vendetta, de vengeance, etc. Mais moi, je comprends parfaitement, par exemple, ce qui s'est passé à Bukavu. Vous avez vu peut-être les images de ces jeunes de Bukavu qui ont tenté de traverser la frontière entre les deux pays pour aller au Rwanda. Bon, en fait, on peut se demander, oui, ce geste, il est très fort, mais ce geste conduirait à quoi, en fait, en termes de résultats? C'est cela qui rentre dans la réflexion des nombres d'États en disant, oui, l'opinion publique va dans tel sens, mais à côté de cela, quel est l'intérêt durable à terme pour les deux États, les deux nations? Et c'est là que moi je comprends le geste du président Félix Tshisekedi. Je sais que les gens vont être surpris, pour ne pas dire déçus, n'est-ce pas, qu'ils décident de faire ce geste. Je pense que c'est le professeur David Salé qui a dit, bon, maintenant, quelle est la contrepartie? Bon, moi, je pense que si en contrepartie, nous allons vers un processus apaisé où ces chefs d'État vont parler de tous ces problèmes en disant, voilà, nous les Congolais, nous en avons marre de ceci, de cela. Parlons par exemple des intérêts économiques, parce que le professeur Goumbi aussi en a parlé. Ce n'est un secret pour personne que dans cette région, les ressources naturelles, surtout celles de l'Est du Congo, ne profitent pas aux Congolais, sont pillées, et pas que par le Rwanda, hein, c'est pillé par tout le monde, depuis l'époque belge. Bon, alors, côté régional, comment on met en place des mécanismes qui assurent une exploitation rentable pour les Congolais, tout en sachant qu'il y a tout ce que le professeur a appelé des vautours ou des rapaces. En fait, comment on fait pour que les richesses de la République démocratique du Congo soient bénéfices aux Congolais? Comment on fait pour que le commerce régional ne soit pas un commerce de pillage?
Merci, on va vous redonner la parole. Hein, qu'on permette maintenant aux auditeurs qui sont en train de nous appeler, hein, pour qu'ils donnent aussi leur point de vue par rapport à ces sujets. Et professeur Dadi Salé, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani de la province de la Tshopo.
Albert Kolumbela Bokomba, depuis Kisangani dans la province de la Tshopo, aller à la négociation interne qui, car nos voisins ne sont pas se faire dans leurs accords. La RDC a déjà eu plusieurs accords, tant avec les voisins que les groupes armés. Étant donné que les forces armées de la République montent en puissance, à mon avis, le gouvernement devrait engager nos combattants à poursuivre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement pour trouver la paix dans cette partie du pays. Trop, c'est trop.
Professeur Dadi Salé.
Oui, je pense que notre ami de Kisangani a bien cerné la question comme tout le monde. C'est que nous ne sommes plus au niveau de se faire confiance. Il faut d'abord oublier ces points-là. Je pense qu'il y a trop la politique d'Autriche. On n'a pas confiance. Il y a tellement des accords qui ne sont pas respectés. Et les Congos restent un peu les dindons de la pâte. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc pour moi, je sais qu'on devait prioriser l'aspect des rapports de force, c'est-à-dire l'armée, et puis toute la diplomatie, des accords, etc. Ça peut venir après. Je suis bien d'accord avec ça. Mais vous avez compris qu'avec notre ami de Kisangani, beaucoup d'amis qu'on a interrogés, eh bien, le scepticisme est là. Un scepticisme vérifié. Parce qu'on a on a des amis, par exemple, quand ils disent que le FARDC, c'est les FDLR, ils sont en complicité avec le FARDC. Vous trouvez que ce n'est pas sérieux. Mais je voulais le dire à toute l'opinion, qu'effectivement, ils ont trouvé une sorte encore d'astuce qu'ils utilisent chaque fois pour essayer de faire des contreparties avec la République démocratique du Congo qui accuse le Rwanda avec preuve de l'attaquer. Et eux aussi, ils se disent, non, vous nous attaquez, vous êtes une menace avec les FDLR. La déclaration du Rwanda a été une déclaration intelligente pour eux. Donc, nous comprenons très bien qu'ils n'ont aucune bonne intention. Ils seront seulement obligés. Donc, négocier, je suis d'accord, mais j'estime effectivement que nous devons laisser le FARDC monter en puissance. Nous devons tout faire pour que, exactement, nous puissions avoir la dissuasion. Et là, je vais faire un appel solennel, monsieur le journaliste. L'appel solennel, c'est qu'on ne confonde pas les intérêts trop politiciens. Je suis de gauche, de droite, ou bien de la majorité. Non. Ici, il faut un soutien totale au FARDC. Il faut que tous les moyens soient donnés au FARDC. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas négocier. Non. Mais d'abord, la priorité ici est pour moi. L'urgence, c'est le FARDC que, par exemple, Katumbi, Mouzito, un peu Fayoulou, un peu tous les grands opposants qui ne confondent pas les choses. Nous sommes derrière le FARDC, nous sommes derrière le gouvernement, ça va, et que le gouvernement puisse comprendre qu'il doit collaborer. Le président de la République, pourquoi ne pas contacter, j'espère qu'il est bon, pourquoi ne pas contacter les sénateurs à vie? Lui qui a fait 18 ans au pouvoir, il peut avoir des conseils. Donc, c'est le moment où les Congolais doivent démontrer leur unité. Rien à voir avec le nez de quelqu'un, ou bien tribu, comme je l'ai répété. Donc, je pense effectivement qu'avec cette mobilisation au sommet, comme ça vient de se faire à Bukavu, et ça va se faire encore un peu partout, j'espère bien. C'est juste qu'à Goma, on est en état d'essai, donc c'est difficile de le faire par rapport à la loi. Mais j'espère que partout ça va se faire. Je vous assure, ça va enlever d'abord le scepticisme. Et toute négociation, tout accord qui va se passer, les Congolais vont se sentir à l'aise. Sinon, la majorité des Congolais, pour l'instant, n'est pas du tout à l'aise avec ces conciambules. Merci. Parce qu'on sait qu'on faut qu'on nous roule et on n'aura pas gain de cause.
Merci. On a perdu le professeur Casimir Ngombi. Apparemment, il y a un problème avec les réseaux. On essaie de les recontacter, mais ça ne marche toujours pas. Monsieur Onesfor Sematumba, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Franklin Matumaini. Je vous appelle depuis la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. En acceptant l'invitation du président angolais, le président Félix était affaibli et les décisions jusque-là prises risquent de décourager la population et les hommes qui sont sur la ligne de front. De tous ceux qui se sont déjà dit, encore une fois, c'est la RDC a accepté d'exécuter avant même la rencontre en libérant les deux soldats. Or, à mon avis, c'était une preuve de bif. Et les Rwandais risquent de ne plus maintenant être considérés comme acteurs, et donc la RDC joue un mauvais jeu du Rwanda. La bataille actuelle, c'est de responsabiliser les Rwandais en amenant la communauté internationale à reconnaître son rôle et s'assurer la diplomatie hésitante, car jusque-là, il n'y a aucune base légale utilisée par la RDC pour incriminer les Rwandais.
Oui, monsieur Onesfor Sematumba, votre réaction?
Je comprends parfaitement votre position par rapport à une certaine opinion qui pense que libérer ou remettre les deux soldats au Rwanda c'est prématuré ou ça pourrait faire perdre les traces de la culpabilité du Rwanda. Bon, je comprends. Mais je pense qu'aussi, d'autre part, il faut savoir que si on veut s'engager dans un processus de négociation, ça signifie faire des concessions. Ça signifie perdre pour gagner, en fait. Et moi, je pense que si nous sommes vraiment désireux, j'allais dire amoureux de paix, on doit savoir que parfois, c'est ça le prix à payer. Et puis, je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est quand même notre président de la République. On devrait lui faire confiance. S'il pose des gestes comme cela, ce n'est pas sous la contrainte. C'est certainement après avoir pesé les pour et les contre. Et donc, c'était une demande du médiateur. Bon, le président dit, ok, si c'est le premier pas à faire, je le fais. Bon, maintenant, comme le disait le professeur, bon, du côté du Rwanda, certainement, qu'il y aura des gestes d'apaisement. Mais sinon, voilà, je comprends cette réaction de Matumaini, mais je pense que nous devrions faire confiance au chef de l'État et attendre pour que nous ne puissions pas être, n'est-ce pas, nous les Congolais, ceux qui entravent la démarche diplomatique de Félix Tshisekedi.
Merci. Le professeur Casimir Ngombi, est-ce qu'il est là? Professeur, est-ce que vous êtes là? Voilà. Professeur Dadi Salé, lorsque vous suivez les opinions des uns et des autres, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui souhaiteraient que la RDC puisse agir avec fermeté. Et pour cette opinion-là, agir avec fermeté signifierait, n'est-ce pas, qu'on aille jusqu'à rompre les relations avec le Rwanda, vous pensez que ce serait une solution rationnelle dans le contexte du moment, rompre les relations avec le Rwanda?
Oui, je pense que nous devions nous mettre dans le contexte où ça vient de faire plus de 30 ans, 20 ans, que nous sommes dans cette situation où le Congo fait les dindons de la farce. Je pense que rompre les relations avec le Rwanda, c'est un atout pour que nous puissions mieux négocier et pour que nous puissions démontrer à toute la terre que la situation est grave. Parce que tenez, messieurs les journalistes, peut-être que les gens sont en train de penser que ça commence aujourd'hui. Non, absolument pas. Et ce n'est pas un jet. C'est des milliers de Congolais qui sont en train de mourir matin et soir. C'est l'économie congolaise qui est en train d'être critiquée matin et soir. Et on en a un peu marre. Vous avez suivi les réflexions des amis. Donc, s'il faut rompre, d'abord pour une semaine, deux semaines, pour que nous puissions bien négocier, je mets mon petit doigt à couper, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs une devoir. Parce que tant que nous, Congolais, nous ne démontrons pas la gravité, nous allons reprendre les relations, ne vous en faites pas. Rompons, parce que nous ne sommes pas du tout d'accord. Donc, monsieur le président, c'est ce qu'il dit, romps toutes les relations, ferme les frontières. Je suis un peu dur, pourquoi? Ce n'est pas qu'on va rester là-bas. Non, 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 non. Le Rwanda, c'est un pays voisin. Nous devons vivre avec le Rwanda, matin, midi, soir, et continuer. Mais d'abord, nous rompons jusqu'à ce qu'on se considère et que nous puissions avoir un dialogue des personnes qui se respectent. Votre question est claire, je peux vous rassurer, sans prendre de très grandes décisions. Déjà, interdire Rwanda Air, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Appeler l'ambassadeur, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un risque, monsieur le journaliste, je vais être très sérieux avec ce point-là. Est-ce que vous savez qu'à Bukavu et un peu partout, les gens commencent à s'attaquer presque directement aux États-Unis? Et que vous avez vu des images, les gens commencent à dire qu'est-ce que Poutine peut venir. Donc je pense que la communauté internationale, pour le premier aspect, doit comprendre que les Congos en ont marre, les Congolais en ont marre.
Merci.
Donc, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la communauté internationale devait comprendre qu'on risque d'avoir le pire.
Merci, professeur.
Les gens commencent à appeler Poutine.
Merci, professeur Onesfor Sematumba. Nous sommes à la fin de l'émission. Il faut commencer à conclure. Et comment vous entrevoyez l'avenir des relations entre les Rwanda et la RDC après cette crise au sujet du M23? Ça sera votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Bon, en fait, un peu de mots. Moi, je dirais que ces deux pays, le Rwanda et la RDC, ce sont des pays voisins. Ce sont des pays qui ont toujours vécu ensemble et qui vont vivre ensemble. Et moi, donc, j'espère que les deux peuples, et surtout les deux présidents, vont trouver la ressource nécessaire, le niveau de dépassement nécessaire pour ne pas tomber dans le piège de la fragmentation. Donc, j'espère que... Donc, avec l'accompagnement de tout le monde, mais surtout, c'est en nous qu'il faut trouver les ressources morales, les ressources intellectuelles nécessaires pour que la relation ne sombre pas. Parce que moi, je suis d'avis que personne ne va gagner dans l'érection d'un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Merci, on n'arrive toujours pas à voir le professeur Casimir Ngoumbi. Professeur Dadi Salé, pour vous, c'est quoi l'avenir des relations entre le Rwanda et la RDC après cet épisode M23? Ça sera votre conclusion.
Oui, vous avez suivi Mouzito. L'avenir devra être rose, mais elle ne pourra jamais être rose tant que la République démocratique du Congo, qui est le géant, là-bas, un des géants de l'Afrique, reste un géant au pied d'argile. Non, je vous assure, l'avenir ne sera jamais rose. Donc, il faut que même au niveau international, régional et surtout local, on remette un peu les Congolais s'imposent à prendre leur place dans le temps. Et je vous assure, vous ne verrez plus jamais ces genres de choses et des troubles tant que le Congo va reprendre sa place au niveau du concert des nations. Et ce qui fait que j'ai cité les États-Unis, la Grande-Bretagne, et au niveau régional, on risque d'avoir d'emboisement. Donc si le Congo se prend en charge, vous comprenez que ça risque d'être terrible. Donc tout le monde a intérêt à ce que cette fois-ci, on ne puisse pas faire la politique de l'Autriche et des diplomaties un peu qui ne considèrent pas le moyen et long terme.
Merci.
Pour que le Congo puisse être capable de se prendre à charge à ce moment-là. Nous pouvons parler de tous les restes.
Merci à vous, Onesfor Sematumba, au professeur Dadi Salé et au professeur Casimir Ngumbi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Billy Landry Betou et à Willem Lungamba qui était à la technique et à Donna Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.